Bonjour Seb.
Bonjour.
Tu es batteur au sein du groupe Omea.
C'est ça.
Au niveau du groupe, justement, vous vous présentez comme Omea ou comme 136108 Omea, qui fait référence à une planète naine transneptunienne?
Voilà, là, non, on va juste mettre les bases, c'est juste Omea.
D'accord.
Après, le 13, la suite, c'est... Oui, je vois, c'était un petit clin d'œil à la petite planète transneptunienne.
Cette référence astronomique, est-ce qu'elle influence, on va dire, sur la composition du groupe ou c'est simplement pour avoir un joli nom par rapport à cette planète naine?
Ça y joue aussi. On essaye, parmi nos titres, d'avoir quelque chose d'assez solaire, d'assez aérien. Donc ça rappelle un petit peu le côté spatial. Donc,
sur votre EP qui est arrivé, puisqu'il est sorti le 31 mars, Living, est-ce que vous mettez un thème, on va pas parler de concept, mais est-ce que vous mettez quand même un thème sous-jacent, une sorte de fil rouge sur les 7 titres qu'on retrouve sur cette EP?
On va dire que c'est surtout le côté émotionnel qu'on a voulu mettre en place. Si on fait la synthèse de tous les titres, oui, c'est le côté émotionnel, le côté aussi alarmiste des choses, notamment sur le titre Bones, on a voulu faire quelque chose de très alarmiste.
Vous faites un constat contemporain de la vie, de la société en général?
Oui, c'est exactement ça. Le côté Bones, c'était surtout par rapport d'un point de vue écologique, mais quand on fait la synthèse de tout ça, c'est au final... Ça va aussi mal, c'est que la mentalité humaine ne va qu'en se rabaissant.
Avec une situation qu'on est en train de vivre malheureusement actuellement, puisque donc là on est le 13 avril, on est en plein confinement pour cause d'épidémie Covid-19, qui nous fait plus que montrer du doigt justement toute l'absurdité du monde dans lequel on vit.
Ouais, mais grâce à ça, faut voir que la planète va mieux.
Exactement, d'où l'importance de travailler le après.
C'est ça.
Pour rentrer un peu plus dans la composition, ça fonctionne comment du coup au sein de Omea, puisque vous êtes quatre à travailler. Après, vous avez eu des guests sur l'enregistrement avec des voix additionnelles. On y reviendra un peu plus tard. Vous travaillez comment justement pour arriver à ce genre de production, puisque c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je discutais avec un autre groupe il y a quelques interviews, il y a quelques semaines. Vous faites partie finalement de ces groupes qui cassent un peu les codes, dans le sens où vous avez sorti Living et sur chaque morceau on a une ambiance différente, ce qui sont des choses qui se font presque plus en fait. Maintenant qu'on a un album qui sort, presque tous les morceaux se ressemblent, et vous avez gardé cette on va dire identité polymorphe avec cette EP. Comment est-ce que vous travaillez ça pour avoir plein de sons différents, plein de sonorités différentes sur tous vos morceaux?
Quand on travaille, c'est Andy le guitariste qui ramène on va dire la structure principale, le riff. Après, on brode autour de ça. Justement, après, avec tous les arrangements qu'on peut faire, on arrive à se rendre compte que c'est différent du morceau d'avant et de ce qu'on a fait. Et l'idée d'Omea, justement, c'est ça, c'est de pas avoir un titre qui se ressemble, pas avoir ça, quoi.
C'est le mix, en fait, de toutes vos origines musicales qui se retrouvent après mélangées et qui s'expriment au fur et à mesure.
C'est ça, c'est exactement ça. On veut mélanger un petit peu tout ça sans qu'on va être y ait de la redite. On veut pas ce phénomène de redite où on est dans une chronique en disant ouais, bah tous les morceaux se ressemblent et tout. Non, on veut pas ça. On veut, ce qui est agréable, c'est quand on a une chronique où il y a un détail de chaque morceau, parce que chaque morceau a plus ou moins interpellé.
Ça va dans le sens où vous utilisez aussi bien du coup le français que l'anglais sur vos paroles.
C'est ça.
Le principe, c'est aucune barrière, du moment que ça sonne bien et que ça vous plaît, faut le faire.
C'est ça. En fait, nous, on est un petit peu instantané, quoi. On est un peu polaroid sur les bords. Et on veut, à partir du moment où le concept nous plaît, on le met en place et advienne que pourra.
Ta participation, toi, en tant que batteur, elle se fait comment? C'est-à-dire que, est-ce que quand Andy vient avec son riff, est-ce qu'il a déjà une idée, on va dire, du rythme derrière? Ou est-ce que c'est toi qui poses toute la base?
Généralement, il y a le brouillon. Et à partir de ce brouillon-là, je vais retravailler toutes les parties batterie. Lui, dans sa tête, il a un riff de batterie. J'essaie de le mettre en place et après on essaye de le faire sonner au mieux possible, sans pouvoir, on va dire, bouffer la place de la basse, bouffer la place de la guitare. on essaye de chacun garder ses positions tout en ayant un morceau, on va dire, les plus limpides possibles, quoi.
C'est ce que j'allais dire, le travail basse-batterie, c'est quelque chose de, on va dire, fondamental dans les groupes de rock, puisque c'est ce qui tient en fait tout le morceau. Vous travaillez comme ça, d'abord en façon de parler en binôme avec Léa. Est-ce que vous travaillez spécifiquement un duo basse-batterie, ou est-ce que c'est vraiment le groupe Oméa qui travaille ensemble à chaque fois?
On travaille vraiment tous ensemble, et ça, là-dessus, on y tient. Il y a juste pour le, quand on fait les sessions préparatoires pour les sessions studio, vraiment on se met basse batterie en binôme, sachant que on enregistre tous les deux en même temps. Ouais, on est tous les deux dans la même cabine et on enregistre comme ça visuellement. Il y a une osmose qui se met en place dans la session rythmique. C'est super intéressant. Moi, c'était la première fois que je vivais ça, avec un groupe. C'est quelque chose qui est pour moi, c'est jouissif, on va dire.
Un enregistrement moderne avec des techniques un peu ancestrales.
C'est ça.
Le choix d'avoir enregistré et mixé au Swan Sound Studio avec Guillaume Dousseau, ça s'est fait comment?
C'est une collaboration qu'on avait eue au premier EP. Après, au départ, pour le premier EP, on voulait un studio qui soit pas trop loin de la maison, qui ne nous coûte pas trop au niveau budget. Et au final, on a été très surpris du résultat. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire le deuxième avec lui. Et du coup, avec lui, s'en est venu une petite session aussi de, on va dire, de voix additionnelle. Et il nous a fait un énorme mix. Et merci à lui pour la préparation du master qu'on a fait avec Magnus Lindberg.
Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui travaille, on va dire, avec précision, qui a très à l'écoute de, on va dire, des musiciens. C'est très très gratifiant de bosser avec lui, quoi.
Cette voix additionnelle donc de Guillaume qu'on a sur le premier morceau, sur Sick, ça s'est fait par hasard ou c'est quelque chose que vous aviez réfléchi avant d'enregistrer en studio?
On y avait réfléchi un petit peu en amont, quoi, et on s'est dit il bosse avec nous, donc autant qu'il apparaisse encore plus qu'avec un simple nom sur l'étiquette de l'album. Donc on s'est dit viens poser 2-3 cœurs avec nous, et pour nous c'était c'est un bon esprit de camaraderie, et en plus il a une voix qui est très sympa à écouter. Donc, on s'est dit vas-y, c'est parti, on le fait.
Pour le mastering avec Magnus Lindberg en Suède, ça s'est passé comment? Vous lui avez envoyé avec 2-3 indications ou vous lui avez un peu laissé libre cours à son esprit créatif, puisque on connaît quand même un peu ce nom là donc il connaît bien son métier, on peut lui faire confiance?
Si les souvenirs sont bons, parce que ça commence à dater, la collaboration avec Magnus, c'est Léa qui l'a trouvé, la bassiste, et on lui a expliqué un petit peu ce qu'on voulait comme univers. On avait dit un petit peu rock US quand même, pour que ça sonne par rapport à toutes ces créations. Alors, on avait retrouvé qu'un son rock US dans ses platines, ça sortirait du tonnerre. Et donc il nous a fait 3 propositions, et en fait on en a retenu une, et pareil, un travail rapide, précis, rien à dire, quoi.
Pour rentrer dans les titres spécifiquement, vu qu'il y en a 7, on va pouvoir les passer les uns après les autres. Pour Sick, qui est un morceau qui est extrêmement rentre-dedans, qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent en fait de ce morceau-là?
C'est qu'il ne fait qu'annoncer la suite, quoi. Non, c'est un morceau qu'on a voulu puissant dès le départ. Ça permet, on va dire, rien qu'avec ce morceau-là, d'avoir une trame générale de ce qu'est l'univers Oméa.
Parfait pour commencer. Après, pour Breath, vous avez choisi d'en faire un clip.
C'est ça.
Avec une ambiance assez triste, malheureusement.
C'est le constat, au final, du morceau, c'est la perdition. Et la perdition due à l'addiction, en fait.
Avec à l'intérieur, je parlais anglais et puis et français, mais vous rajoutez aussi quelques petits mots d'allemand.
C'est ça. On a voulu tester, c'est comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de barrière, quoi. Mm-hmm. Donc on s'est dit, au lieu de rajouter, on voulait quelque chose qui soit culturel, et l'allemand passait crème là-dessus, donc Nico a laissé libre cours à sa créativité, et du coup ça en a donné ce qui est son morceau maintenant, et je trouve que c'est très ténébreux, et au moment où il le lâche, on est dans le tréfonds du clip, c'est dans le tréfonds du morceau, donc ça lève les poils, quoi. Sans vouloir défendre mon morceau, bien évidemment.
Pour Bones, on est sur un constat assez amer, mais malheureusement très réaliste.
C'est ça. Ouais, Bones, c'est une collaboration que j'ai faite avec Nico. Moi, j'ai écrit le morceau, on va dire toute la trame principale, et après Nico, pour, on réadapter les paroles, on a fait ça tous les deux, quoi. Moi, c'était la première fois que j'ai écrit un morceau, donc, ravi, en plus, c'est un sujet que moi, qui me tenait à cœur, parce que je suis partisan de Sea Shepherd, plutôt sympathisant, on va dire. Eux font un constat très amer et, on va dire, oui, la réalité, elle est là, quoi. C'est, la déchéance, un petit peu, de l'esprit humain, on se prend, pour les dieux, au final, on n'est que des parasites, quoi, sur Terre. C'est un petit peu le constat que moi j'en fais personnellement, après défendablement par les autres compères du groupe. Donc c'est un petit peu l'esprit du morceau.
Sur Ainozem, vous allez chercher des références, on va dire, à droite à gauche. Alors je parle de Huysmans, et puis je parle de ce petit détournement sur Now I Wanna Be Your Cat.
C'est ça.
Qui est pas mal, vraiment.
Bah pareil, ça part d'un délire et ça part d'un délire et de références qu'on a nous en tête et Monsieur Iggy Pop était là au moment opportun, on va dire, quoi. Tout part dans un délire et au final quand on sait que le délire passe, on sait que s'il passe entre nous, on pose la question de savoir s'il passe avec le public et on l'a testé devant le public et ça passait bien, donc on s'est dit celui-là on le garde et on va peaufiner et on va l'enregistrer.
Sur Lorelai, on est peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus, j'allais dire personnel, mais dans le sens personne physique. On est plus sur quelque chose d'interne.
Ouais. Lorelai, c'est un morceau qui date dans Omea, quoi. On va dire l'un des premiers morceaux qu'on ait fait. On l'avait pas sorti sur le premier EP parce qu'il correspondait pas à la couleur qu'on voulait donner à l'EP. Donc on l'avait gardé pour le deuxième, quoi. Et ouais, c'est un morceau qui est très empreint de personnalité. Il y a beaucoup de vécu dans ce morceau-là, que hier de plus.
Il faut l'écouter.
C'est ça, faut l'écouter, faut limite fermer les yeux en l'écoutant.
Et puis Marbre, avec tout ce qui est, on va dire, contradiction, qu'on retrouve justement sur les premières paroles, avec dessiner l'histoire, la graver dans le marbre, projet illusoire. Déjà rien que ça, ça donne une idée de ce qui se passe dans le titre.
C'est ça, toujours en fait, on est toujours dans le même constat, quoi. C'est peu importe ce qu'on fait, peu importe nos rêves, au final, on a un peu bercé de douze illusions.
Ce que vous allez pouvoir faire maintenant que l'EP est sorti, puisque donc pour l'instant on est en période de confinement, donc tout ce qui est release party, concert et tout ça, on va attendre, alors notamment éventuellement une annonce ce soir du président de la République pour savoir combien de temps on va être encore coincé chez nous. Mais est-ce que vous avez commencé déjà à faire des plans, alors je suppose pour la rentrée, ou peut-être des sessions en live sans personne sur internet, où il y a des montages qui se font aussi, chacun enregistre chez soi, et puis après il y a un petit montage vidéo qui est fait, il y a des bagades qu'on fait ça en Bretagne par exemple. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose au-delà du clip qui est déjà sorti sur Breath?
Pas encore, on va dire, l'affichage internet, on va dire, d'une session live, quoi. On y pense pas encore, potentiellement on ne veut pas encore y penser. Si on pense à ça, ça veut dire que le problème c'est que le confinement va durer un peu trop longtemps. Et non, on préfère limite axer notre travail sur les démarchages, on va dire, pour la reprise, quoi. On espère, pour septembre, parce que là, tout ce qui a été prévu a été quasiment annulé. On a quand même de l'espoir pour la suite. On va dire une belle date qui nous attend, sans trop en dire non plus, mais on va dire sur les coups de fin octobre, début novembre. Donc là, on est en travail là-dessus. On démarche toujours et encore pour justement se défendre et défendre de paix. Ce n'est que partie remise par rapport au confinement. On espère que ça va s'arrêter rapidement, quoi, pour qu'on puisse, nous et les autres groupes, reprendre un petit peu la voie des concerts, parce que là, ça commence à réellement manquer, quoi.
C'est clair.
Mais on travaille.
Un mot sur la pochette?
Sans problème.
Parce que elle m'a, comment dire, pour tout te dire, j'ai été un peu surpris en fait en entendant votre son, puisque en voyant la pochette, ça m'a fait penser à un film, genre film d'horreur ou thriller des années 80, et je m'attendais à un truc genre Carpenter Brut en fait au niveau du son.
Ouais.
Et j'étais très surpris. Donc du coup, je veux bien avoir une explication sur le choix de la pochette.
Eh ben, le choix de la pochette, l'histoire de la pochette, c'est un sujet un petit peu, on va dire, chaotique. On a eu on devait avoir des intervenants extérieurs qui ne se sont pas présentés en temps et en heure ou qui, voilà, où le travail ne nous plaisait pas. Donc du coup, un peu pressé par le temps, déçu de ce qu'on avait eu par le passé, j'ai décidé de faire de la pochette. Comme j'avais fait la première EP, c'était moi aussi. Comme ça, au final, le travail reste toujours en interne, pas d'intervenant extérieur, du coup, on est toujours mieux servi par soi-même. Et donc l'idée, c'était, à l'unanimité dans le groupe, on voulait quelque chose de minimaliste, mais chemin, simplement, et une silhouette qui s'en va au loin. Je trouvais ça très explicite et je trouvais que ça suffisait pour l'univers qu'on voulait défendre.
Qu'est-ce que vous avez eu comme retour éventuellement des gens sur depuis que l'EP est sorti, parce que vous avez alors tous vos petits commentaires qui sont sur sous le clip pour Breath sur votre page YouTube, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui vous ont parlé aussi depuis la sortie de Living?
Oui, on a eu des contacts, on a beaucoup de retours positifs sur le clip, on a même ne serait-ce que par rapport à l'EP, on a nos contacts extérieurs qui nous félicitent à chaque fois en disant voilà le travail il est excellent, la réalisation du clip qui a été faite par un compère Alain Sonnet aussi, Mathias, qui est plus que bien quoi, on pouvait pas mieux faire par rapport à ce clip-là quoi. On a que des retours positifs, à l'écoute même de l'EP, on est comparé à, après sans aucune prétention, mais voilà, au niveau des influences, à du Faith No More, à du Deftones, on a même eu sur une chronique une petite nuance à la James Hetfield de Metallica, donc ce qui est assez jouissif, on va dire, d'entendre ça quoi. Vraiment, nous on est plus que satisfait du résultat et justement des retours qu'on en a. Le fait par rapport à ça, le fait de l'avoir défendu. J'ai réussi à avoir un partenariat avec un endorsement, on appelle dans le milieu musical, un endorsement avec une grande marque de baguettes française.
Tu peux les citer ?
Ah, je peux les citer, bien évidemment, c'est Pro Orca.
Qu'est-ce que ça fait de plus ? Pourquoi ce matériel-là ?
Déjà, c'est artisanat français, et c'est une marque de baguettes, moi, que je connais depuis des années, et j'ai toujours aimé jouer avec ce matériel-là, et du fait de leur demander un endorsement, et qu'ils acceptent justement de me suivre là, pour cette année 2020, donc l'année 2020 et 2021, on va dire, le fait d'être suivi par des professionnels, on va dire, en dehors réel de la musique ou des partenaires financiers, là, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de matériel, qui veut nous faire confiance aussi, c'est, voilà, on rentre plus dans la case du semi-professionnalisme, quoi, par rapport au groupe, et ça, c'est, je trouve ça très intéressant.
Il y a d'autres choses que tu souhaiterais ajouter à propos de Living?
Faut l'acheter, il est dispo sur les plateformes, faut l'écouter, et ceux qui nous écoutent, faut nous faire jouer, quoi.
Clairement. Je vais te proposer 5 choses à manger ou à boire et tu peux en choisir une parmi les 5. C'est-à-dire que je te propose soit de prendre une part de pizza avec les Tortues Ninja, de prendre du lambas avec les Golas, un donuts avec Homer Simpson, une bière au beurre avec Harry Potter ou un onigiri avec Sangoku. Tu prendrais quoi ?
Ah, je suis un fan des Tortues Ninja, donc on va prendre la pizza.
Ouais. Merci pour cette interview.
Merci à toi, merci à tout le monde de l'écouter aussi.
Et puis, rendez-vous sur la route, comme on dit, le plus tôt possible.
C'est ça, plus tôt possible, on espère, le plus tôt possible. On va attendre, mais le plus tôt possible. En tout cas, merci à toi, merci à ce que tu fais, et encore merci. Quoi.
Merci Seb.